DW. Économie et développement.
Transformer localement les matières premières en Afrique pour mieux en faire bénéficier les retombées aux populations et accélérer la croissance économique, les Africains de plus en plus conscients de l'enjeu. Il y a encore quelques petites décennies, les pays exportaient à l'état brut l'intégralité des richesses de leur sol et sous-sol, mais leur aspiration à les transformer localement se renforce chaque année davantage. On en parle dans un instant. Et dans la seconde partie de ce magazine, l'illustration avec la production de carreaux et faïences made in RDC. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
DW.
Les pays africains ont pendant longtemps éprouvé des difficultés à diversifier leur économie, à valoriser leur rente, à engendrer une dynamique d'industrialisation et plus largement à s'insérer dans les chaînes de valeur internationales. Et pourtant, leur sol et sous-sol abondent en matières premières. Avec par exemple la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'Afrique est en tête du marché international de fèves de cacao. L'Angola, le Nigeria et d'autres pays aujourd'hui approvisionnent une bonne partie de la demande internationale en pétrole. L'une des innombrables richesses de la Guinée, c'est la bauxite, dont elle est le cinquième producteur mondial et détient plus de la moitié des réserves de la planète. Dans la culture du café, l'Éthiopie et la Tanzanie se démarquent. On n'occultera pas la densité des ressources de l'Afrique centrale, avec notamment la République démocratique du Congo, qui se place parmi les principaux fournisseurs de cobalt. Mais toutes ces matières premières, rappelle l'économiste ivoirien Jérémy Kouassi Brou, ont plutôt contribué à approvisionner et développer les industries du reste du monde.
L'héritage colonial de la plupart des pays africains a fortement impacté la configuration et les piliers de leur économie. Donc la majeure partie de ces pays-là en fait de la production de matières premières l'essentiel de leurs ressources financières. Et donc, en d'autres termes, depuis, on va dire, 4 à 5 décennies, nous n'avons fait que produire les matières premières et les exporter vers les pays du Sud qui, eux, ont développé leur transformation et leur industrialisation. Donc aujourd'hui, le secteur de la transformation reste encore très, très minoritaire dans l'apport des richesses dans les pays. Vous voyez, quand tu prends le secteur secondaire, il ne représente en général pas plus de 20% de l'économie de ces différents pays-là. Et donc, lorsque nous regardons aujourd'hui la configuration des différentes chaînes de valeur, la création de richesses se fait véritablement à partir de la valorisation des produits à travers leur transformation en produits finis, en produits semi-finis, également à travers la retransformation des produits dérivés, ce qui permet vraiment de générer d'énormes ressources. Aussi, avec la configuration du marché mondial des matières premières et les très grandes volatilités des prix qui impactent parfois l'économie des différents pays. Donc aujourd'hui, cette situation fait que la plupart des pays africains avaient déjà commencé à intégrer les problématiques de transformation des matières premières depuis les années 80, qui malheureusement n'ont pas pu mettre des programmes pour pouvoir relever ces défis-là.
En clair, il y a eu à un moment donné une sorte de remise en cause ou une prise de conscience à divers niveaux. Mais qu'est-ce qui a sonné le déclic véritable ou le changement de paradigme?
Avec l'avènement de la crise mondiale liée à la COVID-19 et à l'arrêt des chaînes logistiques mondiales dû au confinement imposé dans chaque pays, ça a créé une forte inflation sur les produits manufacturés au niveau de bon nombre de pays africains. Il y a eu ensuite la guerre russo-ukrainienne et la crise économique qui s'est profilée, qui est venue encore renforcer cette situation d'inflation au niveau des produits, et ce qui a entraîné une récession globale sur le marché de certaines matières premières. Donc, dans cette même veine-là, les revenus des pays orientés principalement dans la voie de matières premières n'ont pas vu leurs revenus augmenter afin de pouvoir compenser ces niveaux d'inflation là. Donc, les gens se sont retrouvés à importer des produits manufacturés à des coûts plus élevés et qui a créé vraiment un gros déficit au niveau de leur balance commerciale. Donc aujourd'hui, avec plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique représente un grand marché de consommation. Aussi, en termes d'opportunités, nous disposons de toutes ces ressources de matières premières sur place. Également, nous avons des ressources humaines de qualité, car nous avons beaucoup de cadres qui se sont fait former et qui ont la capacité de pouvoir développer des technologies de transformation pour assurer la transformation de nos matières locales. Donc, il est donc impérieux pour les différents pays africains de mettre en place de véritables programmes de transformation de matières premières pour d'abord notre consommation et ensuite penser à exporter le surplus.
Disposer de matières premières est un atout, mais parvenir à les exploiter et les transformer sur place est donc un vrai défi que tentent désormais de relever les pays africains. Ainsi, des secteurs agricoles à ceux extractifs, des stratégies se mettent de plus en plus en place. La Côte d'Ivoire, avec son anacarde et son emblématique cacao, dont elle est le premier producteur mondial, fait du renforcement de la transformation locale de ses matières premières un axe majeur de développement. À l'instar du Bénin, déterminé à passer de l'exportation brute à la transformation de son coton à la zone industrielle, ce que fait également le Gabon dans le domaine du bois. La récente raffinerie de Lekki du groupe Dangote va permettre au Nigeria de se mettre dans la danse pour mieux bénéficier des retombées de son pétrole. La Guinée, aujourd'hui premier fournisseur mondial de bauxite de la Chine, ambitionne déjà de renforcer son positionnement en aval de ce secteur extractif, comme le Maroc qui s'est lancé dans la transformation de la roche phosphatée en engrais. Ces nombreux exemples augurent de belles perspectives pour le continent, aux yeux de Jérémy Kouassi Brou.
Les différences étant compris de plus en plus qu'il faut miser sur la transformation parce qu'on veut tout changer de manière structurelle notre économie. Et c'est déjà une bonne perspective de voir ces différentes initiatives, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun et même au Bénin. Ce sont des choses assez intéressantes. Maintenant, il va falloir en plus de la volonté politique, y mettre les moyens et consacrer les ressources qu'il faut pouvoir permettre véritablement la transformation de notre économie.
Jérémy Kouassi Brou, économiste ivoirien, à qui nous disons déjà merci. DW. Et pour la toute première fois, la République démocratique du Congo produit désormais ses propres carreaux et faïences. Ce pays, qui depuis son existence a toujours importé les carreaux et plusieurs autres matériaux de construction, va du coup mieux valoriser l'argile issue des régions de Kinshasa, du Congo central et de la partie est. La RDC peut ainsi compter sur sa production locale, dont la première phase devrait créer pas moins de 6000 emplois et offrir plusieurs opportunités d'affaires à sa population, mais aussi aux investisseurs étrangers. Jean-Noël Bamouezé, notre correspondant à Kinshasa, a assisté au lancement de cette industrie dans la zone économique spéciale de Maluku.
De cette usine implantée dans la zone économique spéciale de Maluku, la commune la plus étendue des 24 qui compte la ville province de Kinshasa, sont sortis les premiers carreaux et faïences made in RDC. C'est le président Félix Tshisekedi en personne qui a procédé au lancement officiel de la production industrielle de ces matériaux de construction. Selon le gouvernement congolais, cela consacre le lancement de la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales en vue de la densification du tissu industriel de la République démocratique du Congo, gage de l'éclosion de l'économie congolaise, comme le souligne Julien Paluku, ministre congolais de l'industrie.
Et ce vaste projet de production de matériaux de construction, nous l'avons commencé ici, c'était au mois de mai 2022. Une année après seulement, Saphir commence des productions de matériaux de construction made in Congo. Ma satisfaction est grande. Je voudrais féliciter l'entreprise que la RDC a commencé son hub économique ici à Maluku.
Plusieurs autres entreprises ont déjà signé des accords avec le gouvernement afin d'investir dans différents autres secteurs et s'installer donc dans la zone économique spéciale de Maluku. Il y aura donc plus de 20 000 emplois dont ceux créés suite à cette première production par la firme Saphir Ceramics DRC, comme le précise Augustin Bolanda, directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, l'AZES.
C'est un investissement évalué à plus de 115 900 000 dollars américains. Les emplois à créer vont se situer autour de 6 000.
La production des carreaux est donc désormais une réalité ici en République démocratique du Congo. Le travail se poursuit justement, mais déjà, alors que le président Félix Tshisekedi faisait le tour des installations de l'usine, les travailleurs fustigent leur rémunération. Ils travaillent toute la journée pour ne gagner par jour que 6 000 francs congolais, l'équivalent de 2,5 €. On nous paye 6 000. On nous paye 6 000. Nous travaillons des longues heures ici, mais on nous paye que 6 000. Papa, trouvez-nous une solution. On nous paye 6 000.
Pendant ces temps, certains des produits locaux, dont des matériaux de construction, coûtent souvent plus cher ici que c'est importé. Les Congolais souhaitent que cela ne soit pas le cas pour les carreaux et faïences produits localement. Ils sont nombreux ceux qui sont sceptiques quant à la qualité et surtout le prix de ces carreaux et faïences, comme cet importateur de matériaux de construction qui a voulu s'exprimer sous anonymat.
Nous attendons voir la réalité sur le terrain. Si réellement les carreaux là sera durable et rentable, ça va nous servir, même si le prix, puisque nous avons le ciment ici qui nous vient de l'Angola, mais il coûte moins cher par rapport au ciment qu'on produit ici au Congo chez nous. Alors je me demande, ces carreaux là, est-ce qu'on va l'acheter cher ou à moins cher? La qualité, on en a vu, mais on n'a pas encore palpé ça.
Pour sa part, l'économiste Mathieu Takizala, directeur général de l'entreprise spéciale Auto Garage Sage, regrette que la créativité locale ne soit pas soutenue en République démocratique du Congo. Il appelle à la mise en place d'une politique de financement dans le secteur de la construction.
Dans trois quarts des secteurs économiques en démocratie du Congo, la créativité locale est absente. Nous laissons tout le monde construire des maisons. Or, logiquement, ça devait être le panaché des industriels ou des entreprises dans le secteur de la construction. Il ne suffit pas de parler de carreaux, nous sommes à Maluku, c'est bien. Mais maintenant, il faut regarder dans le marché congolais. Est-ce que ces carreaux seront uniquement vendus par la partie particulière? Je crois que nous devons chercher à construire un écosystème des constructeurs et des acheteurs. Et en mettant une politique de financement dans le secteur, cela va permettre que l'essor de cette industrie devienne de plus en plus réaliste.
Le gouvernement congolais a rassuré que la production de Maluku est juste une première étape de l'industrialisation de la République démocratique du Congo en général. Jean-Noël Bamwese à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Et c'est ce sujet de Jean-Noël Bamwese qui vient mettre un terme à ce numéro d'économie et développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine. D'ici là, prenez soin de vous.